Bonjour, l'Art à Nîmes est le nouveau magazine mensuel de la rédaction de Radio Nîmes, consacré à l'actualité culturelle nîmoise. Pour notre émission du mois de juillet, j'ai consacré l'actualité artistique de l'été avec la ville de Nîmes et sa région. Nous vous proposons donc, chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui de découvrir avec nous les programmations cinématographiques, musicales et artistiques. Ce magazine mensuel est diffusé tous les deuxièmes mercredis de chaque mois et en rediffusion le quatrième mercredi de chaque mois de 15h à 16h. Alors, votre émission est co-animée par Bernard Mouret et Isabelle de Montfumat. Sous la direction de Bernard Mouret, nous accueillons aujourd'hui Jean-Sylvain Missen pour les actualités cinématographiques du Sémaphore. Et pour ma part, avec Libre Cours, notre second volet de notre émission de l'Art à Nîmes, j'ai invité à nos micros Stéphane Cochoyan qui nous parlera de son parcours personnel et professionnel et nous entretenir de la nouvelle saison consacrée au Festival Jazz Métropole. Et nous partirons à Avignon pour nous entretenir avec le magnifique artiste Jean-Michel Autoniel qui investit la ville d'Avignon avec ses sculptures monumentales. Mais en attendant, place à l'actualité cinématographique, avec Bernard Mouret et Jean-Sylvain Missen.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean-Sy de Radio Nîmes avec l'accent. C'est la dernière de la saison, c'est la dernière émission de l'Art à Nîmes de l'émission de la saison. Et je tiens à remercier particulièrement Jean-Sylvain Missen, le directeur du Sémaphore, pour sa participation, pour nous avoir accompagné toute cette saison. Sa participation experte et enjouée. Alors on va commencer, il va nous commenter cette trilogie délicate, si j'ose dire ainsi, qui vient du Nord.
Ouais, trilogie d'Oslo, c'est vrai que là on a un programme de 2 mois qui a commencé la semaine dernière, donc on va comme ça balayer un petit peu tout l'été, si vous le voulez bien. Et il y a des choses qui reviennent comme ça, des cinéastes qui font des films, et là c'est qui font plusieurs films autour d'une même thématique. Et là, ce cinéaste a fait sur 3 ans 3 films autour de sa ville natale, Oslo, donc en Norvège, et il a pris un petit peu 3 phénomènes de société différents, dans les amours différents, les rêves différents, les rencontres différentes, tout ça de manière vraiment très très sereine, très très calme, comme on imagine un été écrasé par la chaleur dans le nord de l'Europe, là où ça, d'habitude, on a toujours l'impression qu'il fait froid, mais le climat continental fait qu'il fait quasiment aussi chaud qu'ici maintenant. Et donc voilà, donc c'est des films qui racontent des histoires sur quelques personnages, donc assez intimistes, c'est pas une grande saga historique sur la ville d'Oslo. Mais c'est une bonne température de cette ville qu'on connaît peu dans le sud de la France, parce que c'est quand même assez loin d'ici. Et ça donne envie d'aller de prendre un billet d'avion et d'aller se balader, faire un tour à Oslo.
Et surtout ici, fait si chaud, fait cet été, ça sera peut-être.
Voilà.
Alors on enchaîne par un film d'animation.
Alors on enchaîne par ça c'est vraiment le coup de cœur de l'été. C'est un film d'animation français qui a eu je me rappelle plus le prix, c'est le prix du Cristal d'Or au Festival d'Annecy, qui a été présenté aussi au Festival de Cannes. C'est un bijou d'animation. Alors c'est français, mais c'est très japonais, puisque le titre c'est Amélie et la métaphysique des tubes, et c'est l'histoire de l'enfance d'Amélie Nothomb, qu'elle a raconté dans son livre La métaphysique des tubes. Et le film est une adapté de son bouquin. Donc c'est l'enfance d'Amélie Nothomb. Elle avait des parents son père était diplomate, donc elle était au Japon, et toute la découverte du monde magnifique de ce Japon, où elle a son regard maintenant extérieur, puisqu'elle, bien évidemment, elle a écrit ce livre quand elle était adulte, et avec ses souvenirs d'enfance qui ne sont mêlés que de couleurs pastels, de gentillesse, c'est un bijou d'animation de 5 à 175 ans. Allez-y, parents, grands-parents, enfants, cousins, cousines, c'est bon pour tous les âges, c'est d'un repos, d'une beauté, d'une bonté. On n'a qu'une envie, c'est d'aller manger des sushis après avoir vu ce film-là, de s'acheter l'intégrale d'Ozu et de redécouvrir le cinéma japonais. Donc voilà, ça, c'est vraiment un bain de jouvence pour l'été. Si vous êtes déprimé, que vous êtes accablé par la chaleur, venez passer 1h30 avec nous, voir Amélie, ça vous fera le plus grand bien.
Bon, ben là, nous y serons. Au mois de juin, bon, vous avez rempli une mission très ingrate, hein, très difficile, puisque vous étiez à Cannes pendant 2 semaines. C'était, et on vous a accompagné, hein, bon, dans la difficulté, c'était, on a compris
c'était, que c'était... C'était au mois de mai, c'est vrai que c'était, voilà. c'était difficile, c'était souffrant. Difficile, hein, voilà. Alors c'est vrai que, ben, on dit souvent que, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est le délégué général du Festival de Cannes qui chaque année dit que lui, il prend simplement les films, représente la température un peu du monde. Alors, j'ai pas vu, bien évidemment, tous les films de Cannes, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Sur les films que j'ai vus, ça rigole pas beaucoup, quand même. Donc, voilà, c'est pas une année cannoise où, sur laquelle on va se taper la cuisse, ou même de l'émotion. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait quand même des films comme Enfant Phare, des choses qui avaient quand même traversé toute l'année. Là, ça va être dur de les retrouver. Donc, on les retrouve un petit peu. Il y a quelques titres qui sont encore à l'affiche là, qu'on a sorti au mois de juin. La venue de l'avenir de Cédric Clapiche. Il y a quelques séances de rattrapage de j'ai oublié
de Joachim Trier.
Joachim Trier, c'est à la fin. Le film sort fin août. Joachim Trier et puis le film qui s'appelle Alpha. Qui était présenté aussi
de
à Cannes,
Julia de Cornou,
qui avait eu la Palme d'Or, qui a fait fuir plus de la moitié de la salle du festival. J'ai pas encore vu le film, mais je crains le pire, parce qu'elle est quand même assez un petit peu sévère avec elle-même, un petit peu extrémiste dans
elle
ses choix, et là,
jamais ses personnages,
voilà, et là c'est dur dur. Donc un festival de Cannes qui, moi, autant l'année dernière, on avait trouvé plein d'avant-premières possibles à la manifestation qu'on fait de rentrée sur le premier week-end de septembre. Là, j'ai pas encore vu les films bien à cette période-là. J'étais déjà sûr, ouais, il y a ça, c'est génial, on va se régaler. Là, il va falloir que je me creuse un peu plus les méninges pour ce week-end-là. Donc, mais il y a quand même toujours des choses qui en découlent. Il y a un super polar qui s'appelle Eddington qui sort le 12 août qui sort le 16 juillet par contre, pardon, je me suis trompé, c'est le film d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, Emma Stone. Donc il y a un sacré casting, c'est un film qui se passe dans une ville des États-Unis, comme seuls les Américains savent faire, une confrontation qui ressemble un peu à un western. Ça aurait été Clint Eastwood qui aurait vu le film, il y aurait des pistolets. Donc voilà, donc il y a quand même des films qui émanent du Festival de Cannes qui vont traverser comme ça tout l'été.
Et le film de Cédric Clapiche ne vous a pas convaincu ?
Si, ah. Mais si vous voulez, le film de Cédric Clapiche, il est sorti en plein pendant le Festival de Cannes, là, donc mi-mai. Là, on a encore quelques séances de rattrapage jusqu'à la semaine prochaine. Après, on l'arrête malheureusement très très vite, quoi. Voilà.
Alors, donc il y a donc également une rétro sur Chabrol. Hein, qui va
alors
passer,
l'été, il y a
ce film, je crois.
Voilà, l'été, il y a un petit peu moins de propositions de films. Donc on traverse l'été comme ça avec des thématiques. Cette année, dans ce qui concerne les classiques, il y a deux thèmes. C'est les films de Claude Chabrol, les premiers films de Claude Chabrol, parce qu'il a fait beaucoup beaucoup de titres. Donc c'est ses 11 premiers films. Donc ça commence à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois d'août. On passe les films une à deux fois par semaine. Donc les titres les plus connus sont Les Beaux Serges, Les Cousins, Les Bonnes Femmes. Ceux qui connaissent un petit peu toute cette cinématographie des années 60-70.
Avec Jean-Yann également. Là,
Jean-Yann, Michel Bouquet, il y a
Stéphane Audran.
Voilà, Stéphane Audran, Michel Piccoli, Michel Duchaussois. Il y a vraiment plein d'acteurs qui ont traversé cette période. Et c'est assez rare d'avoir quand même un réalisateur qui a commencé avec la nouvelle vague et qui a fini quasiment avec. Parce qu'il a tourné jusqu'à très tard les derniers films qu'il a tournés, dont un qui a été tourné ici à Nîmes. Voilà. C'était quand même dans les années 90-2000, donc voilà.
Très bien, je vous propose une première pause musicale.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé, on se mouillait mollement. La glace fondait dans les sprites, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en est tout. des éléments qui nous foutaient la frousse.
Spoo,
les poils en même temps. La clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau.
Merci de Radio Nîmes avec l'accent pour cette émission de l'Art à Nîmes. Alors, donc, amis auditeurs, il vous reste encore trois journées d'une salle sous les étoiles, le mercredi, le jeudi et le vendredi.
C'est ça, c'est la thématique de cette année, la musique. Les copains d'une salle sous les étoiles ont investi la cour de la fac Vauban vendredi dernier. Donc ce soir à 22h, il y a Buena Vista Social Club. Demain, Whiplash, c'est un superbe film. C'est le premier film de Damien Chazelle que j'avais découvert au Festival de Cannes. Et vendredi, la soirée de clôture avec Sing Street, un film magnifique qui parle de l'amour entre deux chanteurs de rue, comme le titre veut bien le dire. Donc voilà, et donc de cette thématique un petit peu d'une salle sous les étoiles, on a recoupé un certain nombre de films et on s'aperçoit comme ça que quelquefois il y a des choses qui collent. Donc on a une thématique un peu musicale qui court encore sur quelques semaines et quelques séances. Il y a Ange, le film de Tony Gatliff. Tony Gatliff est le seul réalisateur français à être venu présenter tous ses films au Sémaphore. Donc il est venu le présenter aussi en avant-première au mois de juin. Il y a Au rythme de Vera qui raconte un petit peu l'histoire du parcours de le pianiste célèbre qui a fait le Köln Concert, Keith Jarrett, en 1975. Il y a Nicap qui est un film sur un assez fabuleux film que je vous conseille vraiment. C'est un film de rap. Alors je le dis d'autant plus que je suis pas du tout attiré par le rap, mais là c'est trois copains irlandais qui chantent du rap en gaélique. Et donc il y a une espèce de coup de gueule comme ça contre l'influence britannique dans l'île d'Irlande. Et c'est vraiment un film qui a deux niveaux, au niveau musical, mais surtout au niveau de la contestation. Et on voit que quand même il y a encore des jeunes qui se servent de la musique pour contester, qui font des concerts dans des petites salles avec des prix abordables, et que c'est pas simplement des grands concerts à 200 euros la place comme on a chaque année Oasis ou les grands groupes britanniques qui font des tournées revival à n'en plus finir.
130 voilà. euros pour écouter Santana.
Voilà, donc c'est bien. Hein, moi, Santana, je pense que on prend le disque de Woodstock, on écoute Santana et on fait des économies.
Le Sémaphore voilà. S'intéresse également aux adolescents.
Alors c'est pareil aussi. C'est quelquefois il y a des thématiques comme ça qui sortent des films. Il y a plein de films que vous pouvez amener voir vos ados. Il y a Enzo, le dernier film qui a été préparé par Laurent Canté, mais malheureusement il est décédé en cours de tournage. Il y a donc Enzo, Nicap peut intéresser nos ados. Il y a toute une rétrospective des trois premiers films d'un magnifique réalisateur d'animation japonaise qui s'appelle Mamoru Usada, qui a fait des films qui sont absolument extraordinaires, Les Enfants Loups, Summer Wars et La Traversée du Temps. Alors c'est des mangas, mais des mangas qui sont un peu longs, donc c'est pour ça qu'on dit pour les ados, parce que y a quelquefois des histoires qui pourraient intéresser les enfants de 5-6 ans, mais souvent c'est des films qui font 2 heures, donc à 5-6 ans on n'a pas l'attention pour voir des films de 2 heures, donc on alterne une séance en VF, une séance en VO, et après dans la programmation, il y a un autre coup de cœur de l'été. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Amélie. C'est un film américain qui s'appelle Didi et qui raconte l'histoire d'immigrés japonais aux États-Unis dans les années 80 avec la naissance des réseaux sociaux. Comme ça, on voit les débuts de... comment ça s'appelle? Vous savez, quand on s'envoie des messages à Facebook, ce genre de choses. Et on a vraiment l'impression que le message, il fallait le porter. C'était hyper long. Donc, toute cette histoire d'intégration des Japonais qui, même dans les années 80-90, c'était quand même encore difficile. Les années skate, le début du mouvement rap. Donc voilà, c'est un film qui est très marqué comme ça, qui peut bien intéresser nos ados. Il y a Les Filles Désir, un film qui est tourné aussi dans le sud, qui raconte le désir féminin. Ça existe, il n'y a pas que les garçons qui ont des désirs, il y a aussi les jeunes filles. L'été de Jaya, qui raconte les déboires en Belgique d'immigrés qui sont en zone d'attente pour savoir s'ils vont pouvoir intégrer cette fameuse communauté européenne qui fait prendre des risques inconsidérés à beaucoup de jeunes Africains. Voilà. Il y a L'Épreuve du Feu aussi, une histoire d'initiation pour une jeune de 19 ans. Voilà, donc il y a pas mal de films comme ça qui traversent l'été sur la thématique de l'adolescence.
Alors le sémaphore s'intéresse aux adolescents, mais également aux jeunes enfants.
Alors jeunes enfants... En plus d'Amélie et la métaphysique des tubes, il y a depuis 5 ans une initiative qui est assez bien. On regroupe au niveau national un certain nombre de films pour les petits. Ça s'appelle le Little Film Festival. Et c'est des films qui sont vraiment... C'est des programmes de court-métrage pour les tout-petits. À partir de 3-4 ans, ça dure 45 minutes. Donc c'est des bons débuts pour... apprécier le mode cinématographique, ces programmes de court-métrage, parce que il y a toujours ce problème de concentration quand on est au cinéma, et ça, il faut quand même en être conscient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, comme à des ados en classe, d'avoir 8 heures de cours. Moi, je trouve ça complètement débile, parce qu'on ne peut pas être 8 heures de cours hyper concentré. Ben, c'est pareil pour les enfants au cinéma. Donc, ces petits programmes de court-métrage, ça dure 5, 7, 10 minutes maximum les films. Donc il y a les enfants sont attentifs. Après il y a les génériques du fin et puis du début de l'autre. Donc ça bouge un peu, ça va sur les journaux de papa ou maman. Et il y a une autre histoire. Et souvent ils mélangent les formes d'animation. Il y a de l'animation classique, du stop motion, du papier mâché, plein de choses. Donc ça permet, si vous voulez, d'ouvrir, et c'est toujours un peu le but du sémaphore, d'essayer d'ouvrir un peu différents horizons à des gamins. Et s'ils peuvent prendre après des crayons et des ciseaux pour faire des découpages, on a gagné notre rôle éducatif.
Alors si on veut bien résumer tout cela, alors il faut aller voir la trilogie d'Oslo. Pour ceux qui n'ont pas peur, ils vont voir le film de Julia Ducournau, c'est ça ?
Ducournau, oui. Il y a rien d'obligatoire au cinéma. C'est vrai que l'été, c'est
bon. Il y a la clim, déjà.
Il y a la cafette qui est ouverte quand même assez souvent, même si elle ferme 15 jours à partir du fin juillet. On est bien, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est vrai que c'est des beaux endroits pour découvrir les films. Il y a en plus, on a parlé de la rétrospective Claude Chabrol, il y a aussi toute la partie programmation américaine qui s'appelle Tous à l'Ouest, avec La ruée vers l'or, La soif du mal, Plus fort que le diable, African Queen, donc il y a quand même des grands classiques du cinéma, et moi je trouve ça hyper bien l'été, c'est comme de relire un bouquin qu'on a déjà lu et apprécié, on peut se faire une bonne toile. Voilà.
Très bien. Bon, il nous reste 5 minutes. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, nous définir ce qu'est un cinéma art et essai ? Quel est ce label ? Est-ce qu'il y a une feuille de route ? Est-ce qu'il y a une... comment ça fonctionne ?
Il y a une feuille de route qui est que qui fonctionne, si vous voulez, comme un classement après coup. C'est-à-dire que le classement art essai intervient après l'étude par une commission art essai régionale et après nationale de ce que la salle a proposé comme animation. Donc il y a 5 gros secteurs, l'enfance, le 15-25 ans, le cinéma de patrimoine, le documentaire, le court-métrage, il y en a même 7, et les films recherche et découverte. C'est-à-dire les films, par exemple, la trilogie d'Oslo fait absolument partie de cette... C'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs dans la région. La trilogie d'Oslo, ça va passer à Nîmes, à Montpellier, et puis après c'est Perpignan et Toulouse. Donc, et puis de l'autre côté, c'est Avignon et Aix. Donc voilà, ce n'est pas des films qui passent dans de nombreuses salles. Et... Moi, je trouve que la définition d'un cinéma RSC, c'est une définition de lieu. C'est-à-dire, c'est d'abord un lieu culturel où on peut aller sans connaître le programme, et je pense qu'on arrivera toujours à trouver dans la journée ou quelque chose. Il y a une cafétéria, on peut se poser, regarder le programme, discuter. On reçoit beaucoup de monde du milieu associatif, culturel. On a des partenariats avec tous les gens qui viennent, par exemple, autour de ce micro tout au long de l'année, le théâtre de Nîmes, Paloma, voilà, tous ces acteurs culturels de la ville, des institutions, on est partenaire d'eux, mais on est partenaire également, je sais pas moi, de la CIMAD, des choses qui font tout un travail formidable au niveau des problèmes de société. On travaille aussi énormément avec le milieu scolaire, avec les enseignants, avec les milieux des formations, avec l'ESBAN, les Beaux-Arts. Donc c'est vrai que c'est que le cinéma devienne, moi quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je voudrais utiliser le sémaphore pour faire connaître quelque chose dans un domaine, ça me plaît tout de suite. C'est-à-dire que utiliser un film basque pour parler d'une problématique des Pays Basques, un film du fin fond de l'Oural pour parler de la problématique du fin fond de l'Oural, du moment que ça serve le cinéma et que le support soit beau, soit un film, ça m'intéresse. C'est vrai qu'on dépasse un petit peu le cadre de la sortie d'une programmation de film RSC. Un film RSC, c'est pas moi qui définis ce que c'est un film RSC, il y a des commissions qui définissent ça. Généralement, les films RSC connus, vous les connaissez comme moi, c'est les films de Pedro Almodovar, à l'époque Woody Allen, tous ces gens-là. Donc, je pense que, pour revenir à votre question, c'est vraiment proposer du cinéma qui soit ouvert sur le monde et sur la cité de Nîmes. C'est-à-dire qu'on a un environnement. Nîmes est une ville espagnole, mais on a... une énorme association qui travaille au niveau du cinéma britannique. Alors, on pourrait dire que c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Donc, on participe à chaque fois qu'il y a un film britannique, on fait une collaboration avec cette association-là. Donc voilà, c'est ça. C'est un cinéma qui est au cœur de la ville, qui écoute la ville, qui écoute ses habitants, ses associations, et voilà. Donc, c'est
et
vrai
en plus,
que...
à des prix très raisonnables.
À des prix raisonnables et avec les travaux qui ont été réalisés autour du Palais des Congrès qui sont bientôt finis. J'ai d'ailleurs une réunion dans 15 jours par rapport aux problèmes de circulation et puis d'accrochage de vélos et ce genre de choses. C'est quand même vachement bien que ce soit en zone piétonne. Alors pour les gens à mobilité réduite, il reste ce problème-là qu'il faut que j'arrive à éclaircir avec la ville. Mais c'est super quoi, d'avoir tout l'espace piéton devant le cinéma. Quand il y a des groupes de scolaires qui viennent, personne ne se mélange. Pas de voiture qui passe. Bon, il y a des contraintes pour les chauffeurs-livreurs, pour les choses comme ça, mais on n'est pas le premier cinéma à être dans une zone piétonne et on va s'habituer, bien évidemment.
Merci beaucoup, Jean-Sylvain Minsen, pour cet éclairage très intéressant. Et on se revoit alors à la rentrée.
À la rentrée.
En septembre.
Bon été à vos auditeurs et vos auditrices. Bon été à vous deux aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
De Paquet, Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme.
Oui, donc pour notre second volet avec libre cours pour Radio Nîmes et l'art à Nîmes, j'ai invité à nos micros Stéphane Cochelan, directeur artistique du Festival Jazz Métropole, qui a conçu sa nouvelle programmation donc du festival avec la mise à l'honneur de grands artistes et d'une nouvelle génération qui s'inscrit dans le jazz d'aujourd'hui. Durant donc un mois quasiment, le Nîmes Métropole Jazz Festival déploie ses ailes sur la commune et les communes de l'agglomération avec un vent de swing, d'improvisation et de liberté du 12 septembre au 18 octobre 2025. Donc cette année, le fil rouge de ce festival est un rythme de zazou pour les amoureux fous du jazz qui ont su faire de la musique un acte de style et parfois même de résistance, avec un esprit qui traverse la programmation, libre, joyeux, effervescent, décalé. Stéphane Cochelan, bonjour. Plus généralement, Stéphane, je sais que votre parcours personnel et professionnel, a été animé par cette passion du jazz depuis presque votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez été forgé par cet attrait du jazz ?
Oui, bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est tout simple. Oui, la passion, c'est quelque chose qui vous prend, qui vous dévore, mais comment dire, vous me dites passion pour le jazz. C'est vrai, évidemment, je ne vais pas démentir, mais passion pour toute la musique possible et inimaginable, et il y en a tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24, et dans le monde entier. Et donc c'est cette musique qui est ma passion absolue. Et je dirais, j'ai deux très grandes familles qui me guident. C'est d'abord la famille de Mozart, dans l'ordre. Donc la famille de Mozart, c'est Bach, Haydn, Beethoven. On remonte jusqu'à Debussy, Ravel, Stravinsky, Chopin, bon, etc. Mm-hmm. Et puis la famille de Miles Davis, qui descend, lui, du côté de Duke Ellington, de Louis Armstrong, qui embrasse la musique classique aussi, parce que les musiciens de jazz sont toujours inspirés de Stravinsky, Ravel, Debussy, de la musique classique, et qui remonte jusqu'à la pop et le hip-hop, je dirais « from laptop to hip-hop », comme disait Quincy Jones, avec, bien évidemment, Miles Davis, dont le rêve était de jouer avec Jimi Hendrix. Ça ne s'est jamais fait, mais en revanche, il a travaillé avec Prince et il a inventé le jazz rock. Bref, c'est la famille de Miles Davis qui englobe les Pink Floyd, les Rolling Stones et toute l'histoire des musiques actuelles et modernes.
Et vous avez été vous-même artiste, enfin vous étiez également pianiste, hein, c'est ça ?
C'est vrai, j'étais sur le circuit pendant assez longtemps, j'ai commencé très très tôt. Ça m'a permis de faire des concerts un peu dans le monde entier, de jouer avec des très grands musiciens comme Daniel Humer, Henri Texier, Stéphane Grappelli, Billy Hart, Ron McClure, Joe Anderson, enfin bref, des très très grands musiciens de jazz. Petit à petit aussi, j'avais un père spirituel qui était nîmois, qui s'appelait Guy Laborie et qui était le président du Jazz Club de Nîmes, qui lui a fait venir 4 fois Miles Davis dans les arènes, Herbie Hancock, Chick Corea, Charlie Mingus, tous les plus grands du jazz sont venus dans les arènes de Nîmes, et il m'a transmis également le virus de l'organisation de concerts. Et donc petit à petit, je me suis mis à organiser des concerts. Et de plus en plus, chaque fois on m'appelait pour organiser un concert de plus et encore de plus. On disait tu cherches à organiser un concert, appelle Stéphane. Le mot a été donné, puis je me suis prise au jeu. J'ai candidaté pour des très très grands festivals de jazz. Je me suis retrouvé à la tête d'un des plus grands festivals de jazz en Europe, qui est Jazz à Vienne. J'ai créé plusieurs festivals comme les Enfants du Jazz à Barcelonnette, les Nuits du Jazz de Vauvert, qui sont devenus Jazz à Vauvert plus récemment, le Festival de Jazz d'Orléans aussi qui a fait appel à moi, et puis évidemment, j'ai toujours accompagner Nîmes. J'ai jamais voulu laisser tomber Nîmes, même si souvent on m'a encouragé à le faire, en me disant mais non, tu peux pas diriger plusieurs festivals, ceci, cela. J'ai jamais voulu laisser tomber Nîmes, et puis on a un très très beau festival qui est le Nîmes Métropole Jazz Festival, nmjf.fr, où on a les plus grands musiciens du monde, on l'a dit, vous l'avez dit, mais également la nouvelle génération et des pépites qu'il faut découvrir, notamment pour cette nouvelle année.
Oui, alors comment avez-vous justement pensé ce prochain festival qui aura lieu du 12 septembre au 18 octobre prochain, comme vous l'avez dit, avec une programmation assez inédite qui mêle à la fois les grandes têtes d'affiche et ces jeunes voilà, qui sont plus accessibles ou pas. Que pensez-vous d'ailleurs de cela, justement ?
Alors, je l'ai conçu, et nous l'avons conçu, parce que c'est un travail d'équipe, avec cet esprit pour les Azou. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de présenter cette thématique, parce que les Azou, eh bien, figurez-vous, ils dansaient à la barbe des Allemands. Les Allemands détestaient le jazz. Les Américains, à cette époque-là, nous ont apporté la liberté. Le jazz, c'est la musique de la liberté d'improviser, la joie également. Et ces Azou-là, la joie, ils l'avaient, malgré le fait que c'était la guerre. Ils s'habillaient en tenue bariolée, ils avaient des parapluies, même s'il ne pleuvait pas, tout ça pour danser. Donc c'était vraiment des actes de bravoure et de résistance à travers cette musique de jazz. Et cet esprit-là, cet esprit rebelle, eh ben, il est dans cette programmation 2025, avec des groupes iconiques comme le groupe Deluxe, qui est vraiment un groupe, alors eux, avec leur moustache de Zazou, là, c'est voilà, c'est un jazz qui se danse, qui se saute, et parfois même on dit que c'est pas du jazz, parce qu'évidemment, ben écoutez, il y a la police du jazz, vous savez, ça existe ça aussi. Donc le jazz n'a pas de limite, donc on sait pas où il s'arrête, on voit à peu près où il a commencé, et donc le groupe Deluxe fait partie de cette programmation. On va ouvrir aussi avec un dandy cubain qui est très à la mode en ce moment, qui s'appelle Sima Funk, qui relie les musiques cubaines à la musique funk, donc la musique de James Brown, et ça c'est gratuit au Jardin de la Fontaine pour l'ouverture le 12 septembre. On a cette envie de sillonner le territoire avec toute l'équipe de Nîmes Métropole, mais aussi d'avoir un jazz sans œillères, sans bannière, et un jazz qui, je dirais, un esprit de tous les jazz. Il y aura du jazz très classique, avec Danny Doritz et Michel Passe, qui sont pris de l'Académie du jazz en catégorie jazz traditionnel, et donc un hommage à Guy Laborie dans cette soirée-là. Du jazz aussi très traditionnel avec les Pink Turtles, alors eux, ils rejouent des hits, de la pop en façon jazz traditionnelle, et puis du jazz beaucoup plus contemporain également, comme l'Hypnotic Brass Ensemble, qui va clôturer ce festival. Mm-hmm. des grands artistes de jazz qui remplissent les philharmonies de toute la planète, par exemple Didi Bridgewater, qui vient avec un quartet féminin, que des femmes dans l'orchestre, un concept de résistance, de droit des femmes, de droit des femmes noires aussi, noires américaines. Elle vient avec cet orchestre qui est extraordinaire. Et puis le chanteur malien, racine du blues, le Mali. Salif Keita, qui vient avec un projet acoustique.
Mais ça doit être extraordinaire.
Voilà, donc vous avez raison, oui. Et puis, bon, on a aussi des légendes du jazz français comme Henri Texier. Tout ça se mélange avec tous ces musiciens, avec des pépites de la région comme le duo Caméléo, qui va ouvrir pour Salif Keita. Caméléo, ils sont issus de Montpellier. Camille est une harpiste, Léo est un batteur, donc de la musique très influencée par les musiques occitanes. Des pépites aussi comme les lauréats du tremplin Jazz 70 Métropole Occitanie, le groupe Oya, qui va ouvrir lui pour Didi Bridgewater. Donc voilà des premières parties vraiment à découvrir, qui sont issues des musiciens qui vivent en région ou qui sont issus de lauréats de tremplin qui sont partenaires de notre tremplin, c'est-à-dire que nous échangeons nos lauréats, nous les échangeons avec Jazz à Vienne, nous les échangeons avec le festival festival de jazz d'Avignon. Ils nous prennent nos lauréats, et nous prenons les leurs, et ça donne vraiment de très très belles surprises parce que ces jeunes se surpassent lorsqu'ils ont la chance donc de se retrouver sur des scènes internationales.
Et il y a évidemment donc ça chaque semaine, hein, je crois que vous m'aviez dit qu'il y avait vraiment des temps forts. On peut penser début du mois de septembre avec Thomas de Pourquerie. Il y a également évidemment la deuxième partie de Pink Turtle le samedi 27 septembre à Cabrières. Et puis je pense aussi au Aya. Vous en avez parlé. Et puis cette fameuse artiste exceptionnelle, je crois, qui est trompettiste. Qui est vraiment Bria Skandberg, qui a lieu le jeudi 9 octobre à Saint-Chapt, je crois, c'est cela ?
Ah oui, c'est une pépite, Bria Skandberg. Ça fait 4 ans qu'on essayait de l'inviter. Elle joue de la trompette, elle est chanteuse également, donc new-yorkaise, un jazz traditionnel. Oui, des musiciens et des musiciennes à découvrir dans notre festival. C'est un peu l'ADN aussi. Je veux parler par exemple de Gregory Porter qu'on a accueilli sur le Nîmes Métropole Jazz Festival à Bouillargues, dans la cave coopérative. Il a joué devant grosso modo 350 personnes. Et depuis, il a multiplié par 10, voire par 15 son cachet. Voilà, donc c'est aussi une veille que nous mettons sur la scène internationale du jazz et même la scène régionale, de telle sorte à souvent présenter des artistes en avant-première de grands festivals, avant-première de saison. J'ai l'habitude de sourire, oui, parce que souvent je vois les programmes que nous pouvons proposer soit 2 ans après, soit même 10 ans, 15 ans après, programmés par soit des festivals, soit des scènes nationales ou des théâtres. Et tant mieux, ça veut dire que on s'est pas trompé au moment où on a parié sur des jeunes. C'est le cas de Tigran Amassian, par exemple, c'est le cas de Yaron Herman, c'est le cas d'Harold Lopez Moussa, des jeunes qu'on a repérés et qui aujourd'hui explosent et font le jazz d'aujourd'hui et de demain.
Oui, c'est ce que vous me disiez, c'est que la jeune génération, elle est vraiment très active et il y a aussi un public de plus en plus fervent et on le voit bien à Nîmes, le public est très très habité par le jazz, il a recours au jazz, enfin il vient par tradition mais peut-être aussi par envie de découvrir, c'est cela ?
Vous avez raison, on a un public qui est très curieux, on a des prix qui sont très accessibles pour tout le monde, notamment une nouvelle formule de passe, 3 concerts qui a un très très grand succès cette année, la billetterie chauffe, et ce public-là, si vous voulez, c'est un public qui est entretenu depuis 1946, il y a une très grande tradition du jazz, ça a démarré dans les caves de Monsieur Taillefer, et puis il y a eu, depuis 1946, il y a des festivals ou des clubs ou des concerts sans discontinuer à Nîmes. On a eu Sidney Bechet qui avait joué dans le théâtre de Nîmes, celui qui a brûlé. On a retrouvé des affiches et des archives de ce concert. La femme de Louis Armstrong, Lil Ardeen Armstrong, qui avait joué à l'Hôtel Imperator. Cette tradition du jazz, elle est là. Elle est très populaire à Nîmes. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont très très bon. Je vous parlais par exemple de Michel Bastide et de l'Authentic Jazz Band. Michel Bastide qui donnera des conférences gratuites à Carré d'Art. On en apprendra avec Michel Bastide sur le jazz, sur les racines du jazz, sur le jazz traditionnel. Et ce public il se rend aussi au cinéma. On a des partenaires avec le Sémaphore notamment qui va présenter un documentaire sur Keith Jarrett et sur le fameux Cole Concert, ce concert qui est des concerts du siècle en termes de jazz. Voilà, donc c'est vrai qu'on a à Nîmes et Nîmes Métropole, on a vraiment un territoire qui est très favorable au jazz. Je dis Nîmes Métropole aussi parce qu'il y a des associations comme Jazz à Garon, par exemple, qui organisent des concerts. Le jazz fait partie de la vie de la vie culturelle à Nîmes. Et aujourd'hui, si vous regardez, Le festival présente également des concerts associés. Mmh. Pendant longtemps, il n'y avait pas de concert de jazz à Nîmes. Alors bon, nous, on n'a jamais forcé personne à organiser un concert de jazz, vous comprenez bien. Le jazz, c'est la musique de la liberté. Si vous n'en voulez pas, vous n'en prenez pas. Mais il se trouve que maintenant, il y a deux concerts de jazz au Théâtre de Nîmes, et notamment la chanteuse Stacy Kent, qui est un concert de jazz associé au festival. Paloma va présenter The Cat Empire, qui est un groupe australien qui est très influencé par le jazz, par les musiques afro-cubaines, par le ska, par le reggae. Voilà, donc un concert très, très ouvert. Et puis, le théâtre Christian Ligier également va présenter du jazz. Le petit théâtre de la Placette présente du jazz. On a réussi, je pense, petit à petit, à bien jazzifier le territoire.
Oui, c'est
et là,
ça.
Cette année, l'enjeu, c'est de le zazoufier.
Donc, je vous souhaite le meilleur pour cette 19e édition, dont le fil rouge est le thème des Zazou. Le Nîmes Métropole Jazz Festival poursuit son aventure ambitieuse et s'inscrit résolument maintenant, depuis plus de 20 ans, avec les festivals de jazz les plus accessibles. À bientôt, Stéphane Cochoyan. Merci.
Merci beaucoup, Isabelle. Nous vous attendons sur le festival. Merci
avec
beaucoup.
Plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.
Personne n'aurait cru ce cave prophétisant que par malheur mon pauvre petit rat de cave, tu débarquerais avant l'heure. Tu n'étais pas du genre qui vire de bord et tous on le savait, du genre à quitter le navire et tu es la première qui l'ait fait. Maintenant, mamie, qu'on te séquestre au sein des cieux, que je me déguise en chanteur d'orchestre pour tes beaux yeux. En partant, mamie, je te l'assure, tu as fichu le noir au fond de nous, quoi qu'on n'ait pas mis de crêpe sur nos putains de bignoux. On ne m'a jamais vu, faut que tu le notes, c'est une primeur. Faire un bœuf avec des croque-notes, c'est en ton honneur. Sache aussi qu'en écoutant Béchette, folle gamberge, on voit la nuit tomber, ton fantôme qui sautille en cachette, rue du vieux Colombier. Ton fantôme qui sautille en cachette, rue du vieux Colombier. Sans aucun au revoir, mes frères, mais on ne t'en veut pas pour autant. Mine de rien, tu es allé faire ton trou dans les neiges d'un temps. Désormais, c'est pas des salades parmi Flora, Jeanne, Thaïs. J'inclus ton nom à la balade des belles dames du temps jadis. Maintenant, mamie, ta place est faite chez les gentils, que tu as retrouvé pour l'éternelle fête, papa Zouti. Chauffe la place à tous les vieux potaches, machin chose, et Luther et l'oignon, et ce gras du bide de moustache, tes fidèles compagnons. S'il est brave, pourquoi que Dieu le Père là-haut ferait quelques différences entre Saint-Pierre et Saint-Germain-des-Prés. De tout cœur, on espère que dans ce paradis miséricordieux brille pour toi des lendemains qui dansent où y a pas de bon Dieu. Brille pour toi des lendemains qui dansent où y a pas de bon Dieu.
donc pour notre second volet de Libre Cours avec l'art anime, eh bien je vous invite à aller à Avignon avec, pour le 25e anniversaire de sa désignation capitale européenne de la culture. L'actualité artistique a été vraiment marquée par le lancement d'une très remarquable exposition, je pèse les mots, de sculpture de Jean-Michel Autoniel qui s'impose dans la cité patrimoniale et historique des Avignon, mais également dans les 10 musées que dénombre la cité papale. Et donc, j'ai invité Jean-Michel Autoniel à nos micros, simplement pour vous dire que quand même, c'est un artiste exceptionnel, dont il a fait la quête de Murano sa signature, en introduisant au sein de la ville et dans un parcours assez formidable qui est dédié à l'amour, un parcours inédit au sein de la ville. Et donc, il a fait des sculptures monumentales en verre de Murano. Je vous propose son interview au Palais des Papes. Bonjour, nous sommes au Palais des Papes en compagnie de Jean-Michel Autoniel pour un parcours inédit de sculptures contemporaines dans les sites patrimoniaux, mais également au sein de la ville. Comment vous avez conçu cette exposition, Jean-Michel Autoniel ?
Cette exposition est née d'une commande de la ville d'Avignon qui voulait fêter ses 25 ans de ville culturelle européenne et ses 30 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'était en fin de compte le seul cahier des charges que j'ai eu, et avec comme lieu central le Palais des Papes, comme à l'époque des 25 ans, il y a 25 ans sur la grande expo sur la beauté, où en fin de compte tous les lieux avaient été investis dans la ville. Et donc j'ai repris ça, mais seul en fin de compte, seul artiste face à tous ces lieux historiques. Et ça a été une chose très, très complexe au début, d'arriver à trouver un lien entre tous ces lieux. Et je dirais que mon amour pour les poèmes de Pétrarque m'a sauvé, dans le sens où c'est tous ces poèmes qu'il a écrits à cette jeune femme qu'il a découvert un jour en allant à la chapelle Saint-Clair. L'a porté toute sa vie, et il a écrit plus de 366 poèmes, je crois, qui lui sont dédiés, qui sont tous différents et en même temps pareils, c'est-à-dire sur la même obsession. Et je me suis dit, il faut créer un parcours amoureux dans la ville, un parcours poétique où les gens vont, retrouver une émotion similaire, mais en même temps toujours un peu différente. Et le cosmos, c'était l'idée aussi que le lieu central de tous ces musées, c'est quand même le Palais des Papes. Et pour moi, le Palais des Papes est comme un soleil autour duquel gravitent différents musées, et avec des musées qui ont des très très belles collections, que ce soit le musée Calvet avec des collections 18e incroyables, le musée Homme Réquien avec une des plus grandes collections d'herbiers en France, la collection Lambert qui a ouvert aussi il y a 25 ans et qui fête aussi, je crois, cette année ses 25 ans, m'a invité à intervenir dans les collections en choisissant moi-même les tableaux dans la collection d'Yvan Lambert. Donc il y a eu quand même beaucoup de rencontres, où même le lapidaire, où sont montrées toutes les tombes grecques, romaines, les hôtels divinatoires. Et voilà, chaque lieu, je dirais, vient apporter une pierre à ce parcours qui est un peu comme une sorte de chasse au trésor dans la ville.
Finalement, ce sont des œuvres tout à fait spectaculaires, monumentales, il faut bien le dire. Et puis, c'est ce rapport au site et ce rapport à la sculpture contemporaine qui vraiment dialogue parfaitement. Ça a été aussi l'objet, j'imagine, de réflexions à partir du dessin, comme vous le disiez tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire que après avoir, trouver ce fil d'Ariane comme ça qui était autour de l'idée du poétique, j'ai commencé à dessiner, faire plein de carnets de notes. Et d'ailleurs ce carnet de notes, on l'a publié là avec Actes Sud pour l'ouverture, et c'est un joli petit comme un carnet de voyage comme ça qui est fait autour de mes déambulations à travers les 10 musées, avec un très beau texte de Colin Lemoine, poétique comme ça, qui dévoile un peu l'ambiance dans laquelle on va être dans chaque lieu. Et je commence toujours par le dessin, et puis après ça devient de plus en plus technique, surtout dans des lieux qui ne sont pas des lieux faits pour l'art contemporain. Ce sont des lieux historiques, avec leurs contraintes, avec leurs accès, avec les contraintes aussi liées aux monuments historiques. Donc tout ça, c'était un vrai challenge, mais j'ai eu la chance d'être aidé beaucoup par déjà mon équipe, hein, puisque nous on est 20 personnes au studio qui travaillons, on a été pendant 2 ans à fond là-dessus, et aussi par les équipes du palais, les équipes de la ville et les équipes des musées. C'est-à-dire que chaque lieu, en fonction de ses volumes, a été moteur, je dirais, de l'exposition qu'ils reçoivent. Et le Palais des Papes, c'est quand même un lieu où il y a surtout des interventions théâtrales. Donc il y a une bande de baroudeurs ici qui ont envie de relever les défis, et plus c'est fou et plus c'est grand et plus ils sont excités. Et donc on est partis ensemble vraiment dans ce projet où j'ai pu réaliser grâce à eux des choses inouïes, puisque pour la première fois on a pu suspendre des œuvres dans la Grande Chapelle, chose qui n'avait jamais été faite. On a dû construire des ponts en métal que personne ne verra, qui sont dans les combles, permettant de suspendre ces œuvres. Il a fallu avoir les autorisations des monuments historiques. Ça a été vraiment une ingénierie presque, comme un film presque. On était vraiment dans une méga production, mais en même temps avec cette joie et cette envie de transformer l'essai. Et ça, on l'a fait vraiment tous ensemble. C'est un projet que j'aurais jamais pu faire seul.
Vous êtes en quelque sorte architecte de votre exposition, d'une certaine manière. Et je trouve que vous avez trouvé la bonne échelle de travail, puisqu'il y a presque 240 œuvres avec une production extraordinaire, je dirais. Pour ouvrir cette exposition, ça ne doit pas être très simple de produire autant d'œuvres en très peu de temps comme cela.
C'est-à-dire que quand on est porté, qu'on est animé par un projet et qu'on arrive à bien s'entourer, je dirais qu'il y a une énergie, le projet génère lui-même une énergie. Et c'est vraiment, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'on ressent dans l'exposition, c'est ce mouvement, cette énergie, cette envie de prendre les gens par la main, de les emmener d'une salle à l'autre et d'avoir... Des pièces de plus en plus spectaculaires, de plus en plus théâtrales. C'est aussi pour ça que je me suis associé avec un éclairagiste de théâtre pour qu'il y ait une unité lumineuse dans la ville, en extérieur, en intérieur, qu'on soit pris dans une sorte de sentiment général dans tous les musées et qu'on soit face à une grande expo et pas face à 10 petites expos. Donc on est vraiment dans une ville qui embrasse... un projet, et ça c'était vraiment très très motivant.
C'est un univers en soi que je vous invite particulièrement à venir à Avignon, dans les terres avignonaises, pour découvrir toutes ces œuvres formidablement spectaculaires et en même temps très intimistes aussi.
Merci, et vous êtes évidemment les bienvenus à Avignon, surtout que sur les 10 lieux, 7 sont entièrement gratuits, donc c'est formidable quand même.
Merci Jean-Michel Antoniel, à bientôt.
À bientôt, et peut-être le 1er et le 2 août dans la cour d'honneur pour voir le spectacle Midnight Soul qui est créé par Caroline Carlson pour Hugo Marchand et mes œuvres.
Je crois que ça va être exceptionnel cela. Merci beaucoup.
De retour dans le studio Jean-Cy de Radio Nîmes avec l'accent pour cette dernière de la saison et pour remercier les auditeurs de leur fidélité, de remercier Edith, la directrice de la radio, pour sa confiance, de remercier Ruben pour sa technique aux manettes et surtout Gisou, que l'on ne remercie jamais, pour son travail au téléphone et à l'accueil. Au revoir chers auditeurs.
Oui, merci. Alors vous avez compris, allez voir cette fantastique exposition de Jean-Michel Antoniel qui s'empare des lieux comme l'amour s'empare des cœurs. Les visiteurs sont entraînés par une sorte de réinterprétation de l'espace où la ville se transforme, se métamorphose elle-même sous le joug de son inspiration créatrice foisonnante. Chers auditeurs, chères auditrices, je voulais vous remercier infiniment et à très bientôt. au mois de septembre. Merci Edith.